Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Radio 1, toujours premier sur l'info, il est midi. Tout de suite, les titres de votre journal local qui sera présenté par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Benny et bonjour à tous. Quatre marins toujours portés disparus depuis mercredi entre Takaroa et Tikei. Décès de Lokai, un dauphin de Moréa du Dolphin Center. Le CHPF connaît une montée en flèche du nombre de patients Covid+. Pour éviter une surchauffe dramatique, seule solution, faire respecter les gestes barrières bien sûr. Vous entendrez le docteur Dupir dans ce journal. Et puis enfin, une page sport en surf. Un troisième titre européen pour Kaolivast.
Quatre marins portés disparus depuis mercredi entre Takaroa et Tikei.
Le JRCC Papeete a annoncé hier soir être toujours à la recherche depuis mercredi d'une embarcation de 6 mètres avec quatre hommes à son bord disparus entre Takaroa et Tikei. Elle était partie la veille de Takaroa et il n'y avait à bord aucun moyen d'alerte ni de communication et non également de vivres. Aussitôt, le JRCC Tahiti a engagé un dispositif aérien important afin de rechercher les quatre hommes. Une surface de plus de 12 000 km² a ainsi été couverte. Depuis le début de l'opération, les recherches ont repris ce matin à partir de 10h. Elles vont se concentrer sur la zone située entre Takaroa et Apataki.
Triste nouvelle, Lokahi, un dauphin du Moréa Dolphin Center, est mort.
C'est une information de nos confrères de Polynésie la Première. Le dauphin serait mort dans la nuit du mercredi à jeudi au centre Dolphin Center qui se trouvait alors dans l'hôtel intercontinental de Moréa. Ce dauphin âgé de 26 ans était originaire de Hawaï. Il est arrivé à l'âge de 3 ans à Moréa en 1997. Une grande douleur et un choc pour le Moréa Dolphin Center qui déplore un décès très soudain. Et des analyses sont en cours afin de déterminer la cause de la mort.
Journée 2 en 1 pour les aveugles de Polynésie.
Une journée 2 en 1 effectivement, car d'une part c'est la journée mondiale de la vue et d'autre part car c'est aussi l'inauguration du nouveau local de l'association, un local où de nombreuses formations seront dispensées, telles que l'informatique avec un logiciel de synthèse vocale, comme l'explique justement à notre micro Diego Teietia, président de l'association.
On est là aujourd'hui d'abord pour inaugurer le nouveau centre de l'association Barasan Matahutu, et on est là aussi également pour célébrer la journée mondiale pour la vue. Dans ce centre, donc, il y a des formations qu'on pourra mettre en place, des apprentissages à l'écriture en braille et également l'informatique aussi. Après, il y a d'autres activités que les aveugles peuvent faire. C'est le potager, donc tout à l'heure vous allez voir, derrière le centre, il y a des petits potagers faits par les aveugles et les malvoyants de l'association.
Des propos recueillis par Pascal Bastianaggi.
Covid-19, les hospitalisations augmentent, le CHPF appelle à la vigilance.
Anticipé, c'est depuis le début de la crise sanitaire l'idée fixe du CHPF qui a, dès le 1er septembre, adapté son fonctionnement à la pandémie. Une organisation qui est de plus en plus mise à l'épreuve avec la hausse du nombre d'hospitalisations liées à l'épidémie. Comme le rappelle justement le docteur Philippe Dupir, président de la commission médicale d'établissement, cette montée en flèche implique de priver d'autres services de places et d'effectifs.
Le système marche par compartiment, donc chaque fois qu'on a des patients supplémentaires, on peut ouvrir des compartiments de 12 lits avec le personnel qui va en relation avec cela. Et derrière ça, en fait, on est obligé par contre de vider les services concernés qui sont censés prendre en charge des patients non Covid pour d'autres raisons. Donc, et c'est là où il faut qu'on fasse très très attention, c'est-à-dire qu'il est nécessaire absolument de maintenir notre prise en charge sur les patients non Covid sans qu'ils perdent des chances et en même temps de prendre en charge la montée des cas Covid dans l'hôpital.
Le seuil de saturation est encore toutefois très loin. Le plan préparé par l'hôpital prévoit de mobiliser jusqu'à 200 des 400 lits du Taonais. Les capacités peuvent être optimisées en sollicitant au mieux le privé.
Il est toujours possible de mieux solliciter les établissements privés pour prendre un peu plus en charge des chirurgies qui mériteraient d'être prises en charge, sauf à compter sur une perte de chance. Et donc on pourrait travailler de façon collaborative avec les cliniques, ce qui a été fait d'ailleurs cette semaine sur une mission d'expertise par un professeur parisien. Mais il y aura effectivement un système de cut-off au-delà de 250 lits, à mon avis, on sera à la fois en difficulté sur la volumétrie des ressources humaines, mais aussi sur les ressources médicamenteuses type oxygène, etc.
Élément rassurant toutefois, si des contaminations de soignants par des patients ont déjà eu lieu, la transmission entre soignants n'a pas été encore observée dans l'hôpital.
L'hôpital est complètement investi par des mesures barrières, une restriction des visites des familles, un personnel qui est très formé, on a eu des masques qui sont disponibles, ils peuvent être changés chaque fois que c'est nécessaire, il y a des P2, il y a des blouses imperméables, il y a des combinaisons, donc franchement, oui, tout est possible, bien sûr que c'est toujours possible, on n'est pas parfait. Cela dit, la transmission, elle est certainement beaucoup plus facile à l'extérieur de l'hôpital qu'à l'intérieur de l'hôpital.
Des propos recueillis par Charles Irénée.
Amir Ferry, une voix atypique contre le harcèlement scolaire.
Ce Tunisien, âgé seulement de 17 ans, écrivain précoce et talentueux, était l'invité hier matin du collège de Tipperary, puis également de l'université. Face aux élèves comme aux élus, il parle de la paix, de l'éducation. Son message, il est extrêmement clair, l'acceptation des différences et la lutte contre le harcèlement scolaire. Ambassadeur culturel pour la Ligue arabe et promoteur de la francophonie, il appelle aussi en creux à une meilleure écoute de la jeunesse.
Ce qui se passe au cours de notre enfance, c'est ce qui se passe au cours de notre jeunesse, c'est ce qui influence aussi ce qui se passe au niveau géopolitique ou au niveau global dans les futures années. Du coup, si l'enfant ou l'élève a un climat de paix, un climat paisible, un climat qui permet l'épanouissement interculturel, qui permet l'épanouissement éducatif, les délégués de classe que j'ai rencontrés, par exemple aujourd'hui au collège Tipperary, pouvaient tout mettre en œuvre pour que l'atmosphère et l'ambiance au sein de la classe soient bonnes pour l'éducation et la culture et que l'élève puisse apprendre sans avoir la boule au ventre en venant à l'école. Le lendemain, il sera fructueux aussi.
Au gouvernement, il a même proposé d'aider à l'organisation d'un grand rassemblement régional de la jeunesse le 21 mai prochain à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.
J'aimerais dans un endroit ouvert pour respecter les conditions sanitaires dues à la pandémie Covid-19 que l'on puisse réunir 2000 à 2500 jeunes venus de la Polynésie française mais aussi des îles du Pacifique. Que chaque jeune puisse être ambassadeur d'un archipel, d'une île particulière, qu'ils soient tous rassemblés dans un seul lieu avec des jeunes d'autres îles du Pacifique, avec la présence bien sûr de la présidence de la Polynésie française, mais aussi des chefs d'État et gouvernement de l'océan Pacifique. Ce type d'événement que j'ai appelé le printemps de la culture, ça permet aux jeunes de s'exprimer devant les dirigeants, de leur donner les solutions.
Des propos recueillis par Charles Irénée.
Maintenant, un troisième titre européen pour Kaoli Vast.
Le jeune prodige en surf continue de surprendre et d'épater, effectivement, grâce à une note exceptionnelle. De 20 sur 20 en quart de finale, le Tahitien n'a eu aucune pitié contre ses adversaires lors de la Junior Pro Espino au Portugal. Le jeune homme a littéralement explosé en parvenant à trouver et surfer deux vagues assez incroyables. Kaoli Vast avait déjà, je le rappelle, remporté le titre européen junior en 2017 et 2019. Pour sa dernière saison sur le circuit junior, Kaoli Vast devra chercher à passer les qualifications pour tenter d'intégrer par la suite le circuit professionnel. On rappelle également qu'il a pour objectif de participer aux Jeux Olympiques de 2022 à Tehuapo. Voilà pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.